Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Tony! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% football italien. Vous en avez l'habitude, on continue en ce moment notre bilan de la saison 2021-2022. Et comme nous vous l'avions dit dans les épisodes précédents, nous faisons un épisode plus court concernant chaque grosse équipe. On a donc déjà fait le Milan, l'Inter, le Napoli et la Juve. Et on fera ensuite deux autres clubs, dont un aujourd'hui. Et après un épisode un peu fourre-tout avec le reste de la Serie A pour vraiment débriefer en profondeur et en détail toute la saison 2021-2022. Je suis toujours en compagnie d'un certain Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Johan Crochet, bonjour à tout le monde. Écoute Johan, j'ai ma Vespa, j'ai mes lunettes, j'ai Etienne Dao dans les écouteurs. Je suis prêt à aller dans la ville éternelle.
Direction la capitale, effectivement, pour les deux prochains épisodes. D'ailleurs, on commence aujourd'hui avec la Lazio, cinquième de Serie A cette saison. Je rappelle l'organisation du podcast très rapidement, l'évaluation globale de la saison, on parle des objectifs de début de saison, on parle du contenu, du jeu, de l'entraîneur, on commence à évoquer certains joueurs avant de définir le joueur de la saison, d'élire la recrue de la saison et on termine, mon cher Guillaume, par...
Par le pagellone, le fameux pagellone, vous en avez l'habitude. Maintenant, c'est un mot qui va rentrer dans vos têtes. Voilà. Alors, il faut savoir, Johan, petit cours d'italien, alors que le pagella, c'est vraiment la note... On va dire que tu donnes, on va dire le lendemain d'un match, hein. Je reste que dans le foot. Hein. Donc, pagella, c'est vraiment la note. Et pagellone, c'est vraiment le mot pour qualifier le bulletin de notes de toute la saison. Voilà. Comme si vous étiez à l'école, c'est le bulletin de notes de l'année. Donc voilà, pagella et pagellone qu'on va décerner tout à l'heure à la fin de ce podcast.
Et attention, le pagellone ne se mange pas aux fêtes de Noël. Vous confondez à ce moment-là de mots. C'est le panettone. Voilà,
et d'ailleurs, Johan. Est-ce que tu es Team Pandoro ou Team Panettone?
Attention. Je sais qu'il y a gros débat là-dessus.
Bah, c'est pour ça.
Déjà, j'aime beaucoup les deux. Ce qui me dérange un peu avec le Pandoro, c'est qu'il est... Alors, on le rajoute à souhait, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Mais le côté sucre est un peu trop présent, je trouve. Je trouve le panettone plus subtil. Voilà, on va dire comme ça.
Écoute, moi je suis pas très fruits secs et raisins secs du coup. Ouais. Ouais, du coup, je suis team pandoro, mais je reconnais que le pandoro reste quand même quelque chose de très classique.
Ouais. Voilà. Alors par contre, on reste sur les versions classiques, hein, Guillaume.
Oui, bien sûr.
On va pas chercher le truc au limoncello, au citron, avec les inserts de limoncello et compagnie. Hein. On reste sur le très grand classique.
En tout cas, voilà. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes plus team pandoro ou team panettone. Ça, c'est vraiment un débat que j'ai souvent en famille. et ça crée beaucoup la polémique, sachez. Donc, je serais curieux de savoir si les auditeurs sont plus team pandoro ou team panettone. Donc, n'hésitez pas à répondre sur Twitter ou en commentaire.
Tu sais quoi, Guillaume ? Quand cet épisode va sortir, je ferai un petit sondage à la suite sur le compte Twitter de Calcio et Pépé.
Et quel est ton pronostic ? Pas simple, hein ?
Je sais pas, parce que je pense qu'en France, je pense que le panettone est plus répandu, plus connu, plus répandu. Par contre, tu vois, je me demande si en Italie, on serait pas sur le pandoro.
Tu sais pas.
Ouais, en fait, tu sais, quand tu vas de manière... Tu vois, par exemple, tu vas dans les grandes surfaces, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de pandoro dans les rayons. Par contre, les panettones, et au moment de Noël, il y en a partout, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Et je pense que même dans les campagnes ou, tu vois, dans les plus petites surfaces, etc., je pense que c'est pas encore arrivé jusque-là.
Et sache que le raisin sec est très clivant, selon moi.
C'est vrai ?
Ouais, je pense que c'est clivant. Moi, je miserais sur le pandoro gagnant, mais on verra, mais en tout cas, ça mérite un sondage, selon
moi. Alors, puisqu'on est dans la bouffe, précision, et puisqu'on est ouvert à l'international, on est très italien, évidemment, mon cher Guillaume, on est très ouvert à l'international. Autre dessert de Noël, cette fois-ci en Allemagne, le Stollen, avec des fruits secs. Donc, ce n'est pas pour toi, visiblement.
Ah non.
Mais sachez que c'est excellent aussi. Et tu sais quoi ? C'est un peu un mélange de panettone et de pandoro. Parce qu'il y a aussi du sucre glace sur le dessus. Et il y a des raisins secs à l'intérieur.
Et comment il s'appelle ce dessert ?
Le Stollen.
Le Stollen.
Okay. Exactement.
Eh bien, écoute, si un jour il y a l'occasion d'aller en Allemagne, je penserai à toi, je le goûterai, mais je ne suis pas certain d'aimer. je t'en dirai des nouvelles. Mais écoute, comme ça, vu de l'extérieur, je ne suis pas très... Pas très,
c'est pas très engageant pour
non,
toi.
Non, exactement. Je suis pas très fan, mais bon, ça mérite d'être goûté quand même.
Bon, et si on retournait à notre...
Je remets mon casque sur ma Vespa.
Exactement. À notre bilan 2021-2022, on parle donc de la Lazio qui a fini 5e de Serie A cette saison. Objectif sportif, Guillaume. Quel était l'objectif raisonnable et raisonné de la Lazio ?
Écoute, l'objectif de la Lazio, même s'il n'avait pas été officiellement proclamé, on pourrait dire, je pense que tu seras d'accord, que c'était une qualification en Europe, on va dire en Ligue Europa. Le top 4, on va dire, c'était un peu le rêve. On va dire que voilà, avec Mauricio Sarri qui arrive, nouveau projet, on sait que ça prenait du temps. Donc, je pense que l'objectif, on va dire, réaliste que s'était fixé la Lazio, pour moi, ça reste la Ligue Europa.
Oui, et puis c'est une question de contexte aussi, c'est-à-dire que, hormis la saison passée, où évidemment la Lazio était en Ligue des Champions, d'ailleurs avait fait de bonnes prestations hein, en phase de groupe, la victoire contre Dortmund, il y avait eu des très bonnes choses avant d'être éliminé en 8e par le Bayern, l'histoire moderne de la Lazio, c'est plutôt l'Europa League, donc oui. Ça paraissait effectivement...
Réaliste.
Voilà, réaliste de viser les 6 premières places. Donc, objectif atteint à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde les autres compétitions, là, c'est plus décevant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en Coupe d'Italie, l'élimination en quart de finale contre le Milan, c'est pas trop le fait d'être éliminé en quart contre Milan, qui, en plus, gagne le Scudetto, mais c'est la manière sur le match contre Milan. Après avoir difficilement déjà battu au premier tour l'Udinese, et c'était en prolongation. Oui. Et puis en Europa League, moi c'est là que j'ai presque le plus de déceptions parce que le bon parcours en Ligue des Champions l'année passée avait amené des attentes chez moi. En plus, tu récupérais Sarri qui avait gagné cette Europa League avec Chelsea. Alors je dis pas que ça en faisait deux de fait, des outsiders ou quoi que ce soit pour gagner l'Europa League, mais je me disais, tiens, c'est un petit ajout sympa à quelque chose de sympa dans une compétition encore plus sympa l'année dernière. Et là, je trouve que à la fois dans les résultats, puisqu'ils ont été éliminés en 8e par Porto,
ouais,
mais peut-être encore plus que le résultat, moi, c'est le contenu des matchs qui m'a pas trop convaincu, parce que, évidemment, vu que RMC Sport a les droits de l'Europa League, on a beaucoup suivi les clubs italiens, enfin pour ma part en l'occurrence. Et puis en plus, tu sais, Guillaume, il y avait Marseille dans le groupe de...
Oui, c'est vrai, de
la Lazio. Ouais. Donc, en plus, beaucoup de gens ont eu accès au moins à deux matchs de la Lazio cette saison. Et moi, le match au Vélodrome, il est quand même très compliqué. C'est quasiment un petit miracle de t'en sortir avec un point. Le match à Istanbul, il est catastrophique. Et encore plus catastrophique, le match retour contre Galatasaray. Où là, c'est un ennui comme j'en ai rarement connu cette saison. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match où il ne s'est strictement
rien passé.
Rien passé en 90 minutes plus 100 additionnels. Mais vraiment, absolument rien passé. Alors que si en plus tu gagnais, de mémoire, si tu gagnais ce match-là, tu passais premier du groupe. Et donc, tu avais un adversaire, potentiellement, après c'est toujours potentiellement, au tirage, un petit peu plus simple que Porto, qui lui avait montré des bonnes choses en Ligue des Champions.
Exactement, non mais je suis globalement d'accord sur le parcours européen et en Coupe d'Italie. En plus, en Coupe d'Italie, alors certes à l'époque, Milan marchait un peu sur l'eau, mais c'est vrai que tu prends quand même une claque et tu n'existes pas du tout à San Siro. Et pour revenir un peu, on va dire, en Serie A, pour faire un constat un peu global, alors dans le contexte, évidemment, quand Sarri arrive, Johan, il faut rappeler qu'il y avait quand même une euphorie totale à la Lazio. On pourra revenir sur les quelques détails qu'il y a eu assez compliqués entre le président Lotti et Sarri au moment de la saison, et même Tale, qui était directeur sportif. Mais c'est vrai que du coup, c'était plus la Lazio, mais c'était la Lazio de Sarri, avec forcément beaucoup d'attentes, parce que c'est un entraîneur quand même qui, mine de rien, ces dernières années, s'est fait une belle réputation, que ce soit. Alors, moi, à la Juve, on va pas se mentir, Johan.
Ouais, mais...
Même s'il a gagné le titre.
Ouais,
même
voilà.
S'il a gagné le titre, bien sûr. Ouais, voilà. Bien sûr. Il gagne le Scudetto. Avec Chelsea, il gagne l'Europa League. Et avec le Napoli, il fait quasiment des saisons incroyables, notamment celle voilà, où il finit avec un record de points en étant deuxième derrière la Juve. Mais c'est vrai que, voilà, il arrive quand même avec une réputation, avec un palmarès quand même qui est pas mal du tout. Et c'est vrai que quand Lotito va le chercher, il y a beaucoup d'euphorie dans la ville. Il y a Mourinho qui arrive en face à Rome. Donc, c'est vrai que cette saison, on attendait la Lazio de Sarri. On savait que ça allait prendre du temps. Moi, je l'ai vu, et je ne sais pas si tu serais d'accord, je l'ai vu parfois. Je ne l'ai pas vu souvent, mais je l'ai vu parfois. Notamment en fin de saison où j'ai eu l'impression quand même qu'au fur et à mesure, les joueurs absorbaient, si je peux utiliser ce verbe, les principes et le jeu que demandait Sarri, qui, voilà, on le sait, a des demandes quand même assez spécifiques sur son jeu, justement, qu'il veut prôner. Évidemment que le derby aller contre la Roma m'avait fait rêver un peu, parce que je m'attendais du coup à beaucoup de choses pour la suite. Après, voilà, j'ai été beaucoup déçu sur certains matchs. Voilà, tu en as parlé, le match contre Galatasaray, même le match contre Marseille. Et en Serie A, il y en a eu beaucoup quand même où voilà, tu t'attendais à quelque chose et tu graissais avec un peu un goût amer, parce que d'un match à l'autre, vraiment, la Lazio, c'est sur courant alternatif. Et c'était assez compliqué de la suivre. Et en tout cas, voilà, la Lazio de Sarri, pour moi, n'est pas encore née. Mais disons que j'ai commencé à voir certaines choses de Sarriesque, si je peux utiliser cet adjectif-là, même si ouais, pour moi il y a encore beaucoup de boulot, notamment par l'achat notamment de joueurs compatibles avec les demandes de Sarri.
Mais écoute, on est clairement sur la même longueur d'onde, puisque sur le jeu, comme toi, j'ai noté que sur la fin de saison c'était mieux, notamment lors des 4 dernières journées où j'ai vu quelques bribes de jeu que je n'avais pas forcément vu en première partie de saison, ou de manière beaucoup trop épisodique, notamment lors du derby aller.
Ouais.
Je trouve que cette équipe est encore là où elle est la plus dangereuse, c'est finalement encore en transition, comme avec Simone Inzaghi, ce qui peut s'expliquer, hein, parce que passer d'Inzaghi à Sarri, c'est vraiment un très grand écart. Et je pense que Sarri, au fur et à mesure de la saison, a aussi su s'adapter et n'a pas mené une révolution aussi brutale que peut-être ce qu'il aurait aimé. Parce qu'il y a plein de réflexes dans cette équipe, de jeu direct, d'appui sur le jeu aérien de Milinkovic-Savic, de déviation, de prise de profondeur sur les côtés et aussi par Immobilier. Finalement, cette équipe-là, elle est assez... hormis quelques exceptions, je la trouve assez peu dangereuse sur attaque placée ou en phase de possession, mais par contre totalement létale encore en transition parce qu'elle a des joueurs qui à la passe sont extraordinaires et aussi tu as des mobilettes sur les côtés, ça va vite, Immobilier prend très bien la profondeur, donc c'est aussi une forme d'intelligence de s'appuyer sur ce qui marche en attendant d'avoir un peu plus de temps pour inscrire en profondeur tes principes de jeu.
Mais tu vois, tu parlais des joueurs en transition, notamment, t'as des joueurs en plicité, que ce soit Zaccagni, que ce soit Pedro, que ce soit Philippe Anderson, bon, qui était plus discontinu, mais t'avais vraiment même Melazzari, qui voilà, c'est vraiment des joueurs en phase de transition, comme tu dis, sont vraiment létales. Et je pense qu'à un moment de la saison, Sarri d'ailleurs a eu l'intelligence, on va dire, de se mettre un peu en recul pour avoir vraiment des résultats sans aborder totalement ce qu'il avait envie de faire, mais quand il a vu que certains joueurs avaient d'autres qualités, tu te souviens, même avec plus Alberto, c'était compliqué à un moment, même très compliqué, où il avait terminé sur le banc, après il a réussi à revenir, mais c'est vrai que Sarri, pour moi, à un moment, a eu l'intelligence de dire, bon, ok, j'ai un projet de jeu, je peux l'installer, je pense qu'à un moment donné, il s'est quand même demandé s'il aura le temps de l'installer, bon, visiblement, il va l'avoir, parce qu'il a récemment prolongé, mais en tout cas, voilà, il a eu ce recul nécessaire pour dire, bon, je continue à prendre certaines choses, mais je tire une croix sur d'autres en attendant de pouvoir le faire plus tard.
Oui, c'est finalement ce qu'il avait fait aussi à la Juve. Souviens-toi, quand il arrive et qu'au bout de 2 mois, il dit à ses adjoints, ça avait été révélé, je crois, par Tutto Sport, il me semble, les gars, soit on continue comme ça, dans un mois on est viré parce qu'on va droit dans le mur, c'est-à-dire en voulant faire cette révolution un peu brutale par le jeu, soit on va mettre entre parenthèses certaines de nos idées, continuer à travailler toujours sur l'amélioration du jeu, mais aussi en gardant les spécificités de cette équipe, des joueurs de manière individuelle et ce à quoi ils sont habitués, et à ce moment-là, on pourra finir la saison. Je pense qu'il a sans doute évalué les choses de la même manière cette saison, et que là, avec le mercato... C'est toujours aléatoire, hein, le mercato à la Lazio, entre ce qui est promis et ce qui est fait. Mais en tout cas, si on lui donne des joueurs plus capables d'ingérer, de comprendre ce que demande Sarri, peut-être qu'on aura une équipe qui sera en vraie évolution l'année prochaine. Là, on n'a pas eu de révolution. Je trouve qu'on n'a pas eu d'évolution. On a eu des moments où on
des
a
apparitions.
Compris, voilà, ouais, voilà, ouais. C'est ça, des apparitions, des moments où on a compris où voulait aller Maurizio Sarri d'ici 2 ou 3 ans. Ça prendra du temps, c'est évident, mais on peut se dire que si en plus le niveau global de l'équipe augmente à travers le mercato, ça sera aussi plus simple pour Maurizio Sarri.
Et d'ailleurs, tu parlais de 2-3 ans. Bon, déjà, il faudrait savoir s'il sera encore là d'ici 3 ans.
C'est vrai.
On rappelle qu'il a, c'est pas encore officiel, mais il a prolongé jusqu'en 2025. Mais en tout cas, en coulisses, pour avoir suivi le dossier pas mal dans la presse romaine, surtout le Messaggero qui disait, alors vous connaissez tous Claudio Lotti, le président de la Lazio, qui est assez, particulier, assez fantasque. Voilà, qui.
C'est joliment dit.
Voilà, qui a une tête assez dure. Et quand il a rencontré Maurizio Sarri au repas de Noël de la Lazio, c'est vrai qu'il avait annoncé que c'était fake, qu'il allait prolonger, et finalement c'était pas tant fait que ça, parce que ça a traîné au point que c'est pas encore officiel, parce que Sarri justement voulait avoir cette garantie pour la suite de son projet, c'est-à-dire avoir des joueurs compatibles avec ce qu'il demande et surtout avoir des investissements, alors évidemment qu'il n'y aura pas des joueurs à 50, 60 millions, mais avoir des joueurs qui voilà, peuvent absorber ce que lui demande, avoir aussi, on va pas se mentir, des joueurs de qualité, parce que la Lazio doit progresser sur, sur certains secteurs où il y a vraiment besoin quand même de beaucoup de retouches. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de discussions dans ce sens-là où Sarri, on va dire, a été très clair en disant si vous n'allez pas dans mon sens et si vous ne voulez plus de mon projet, clairement, bah, on s'arrête là et moi, je m'en vais en fin de saison. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment de cette saison, justement, il s'est dit, bon, bah, voilà, on va miser sur les résultats parce qu'on ne sait même pas de quoi, entre guillemets, sera fait demain. Donc, à la fin, heureusement, c'est un happy ending. Il va rester à la Lazio et moi, je suis aussi content parce qu'on apprécie quand même Maurizio Sarri et le jeu qu'il a envie de montrer. Mais ça a été vraiment un sujet de discussion à la Lazio au point que on a souvent parlé de rupture quand même, même entre Taré et Sarri. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qui sont clés. C'est Lotito qui est le président, Taré qui est le directeur sportif et Sarri qui est l'entraîneur. Donc, les trois sont tombés d'accord. On sait que ça passe Johan par un départ de Milinkovic-Savic qui a acté en interne selon les sources de la Lazio et selon la presse italienne. Donc, si tu arrives, et encore faut-il, mon cher Johan, que tu arrives à vendre Milinkovic-Savic pour 70-80 millions d'euros, probablement en première ligue, parce que je ne vois pas d'autres clubs, à part peut-être le PSG, mais j'ai quand même du mal à imaginer que le PSG mettra autant pour Milinkovic-Savic. Si tu arrives à trouver un club anglais qui te donne autant, après, je pense que Lotito, voilà, en réinjectera une partie. Alors, je n'ai pas envie de dire une grande partie parce que. On a
parce
lu
que
aussi
ça n'arrivera que, ouais, pas, Guillaume.
Voilà, donc, déjà parce que ça n'arrive pas. Et on a lu aussi, et je pense que tu as vu comme moi, Johan, les problèmes qu'il y a à la Lazio avec l'indice de liquidité. Et la Lazio s'est inscrit en retard. Et pour l'instant, elle a jusqu'au 22 juin, justement, pour rentrer dans les clous. Donc, il y a quand même un processus de vente des joueurs qui doit être fait en amont pour s'inscrire au moins en Serie A. Je présume que ce sera fait, mais en ce moment, là, à l'instant T, il faut encore que la Lazio vende. Et après, une fois que ce sera fait et qu'elle devra se concentrer sur les achats, là, ça va être vraiment la question de bah, combien on met. Est-ce que surtout, on aurait été capable de vendre Milinkovic-Savic et surtout, bah, voilà, combien d'argent sera injecté. Mais voilà, il y a beaucoup de travail pour la Lazio cet été. Et Sarri sera probablement très attentif parce qu'il a fait une liste de joueurs. Il sera vraiment attentif aux joueurs qui vont arriver et surtout si toutes ces demandes vont être satisfaites.
Deuxième attaque de Serie A cette saison, Guillaume, avec une masterclass, je pèse mes mots, de surperformance. 77 buts, dont 3 CSC, avec seulement 56 expected goals, c'est-à-dire que c'est un plus 18 sur le différentiel entre XG et buts marqués. C'est un record en Serie A cette saison et record depuis la saison 2017-2018 où c'était déjà la Lazio qui avait la plus grande surperformance devant le, je le redis correctement, surperformance devant le but. Donc là, on a clairement une équipe qui a surperformé devant le but. C'est aussi lié à des excellents frappeurs de loin, notamment, sur des buts difficiles marqués. Et puis, on est par contre la 11e défense du côté de la Lazio, avec 58 buts encaissés. Alors, il y a eu les soucis de gardien, Guillaume, puisque c'est Reina qui avait commencé, Strakosha qui a pris la suite. Il y a aussi eu des défenseurs qui ont eu des saisons difficiles. Hein. Acerbi, Postero, c'est pas le même joueur. Ensuite, il y a eu après le problème avec les Ultras. Bon, Luis Felipe, il a totalement plongé.
Patrick.
Et puis, il y a évidemment ce qu'on a déjà dit, les mécanismes défensifs qui sont très différents de ce que faisait Inzaghi. Et clairement, ça s'est vu.
Et surtout, si tu manques de qualité en défense, quand il y a autant de changements, on va dire, dans les principes de jeu, c'est compliqué de tout supporter d'un coup si vraiment tes bases sont pas assez solides. Et c'est vrai que le problème de gardien, la Lazio l'a traîné pas mal, il va probablement être réglé justement cet été. Et c'est vrai qu'en défense, tu en as parlé brièvement, mais le problème entre Acerbi et la Lazio, on va dire que ça a un peu pourri l'environnement, même pollué, parce que ça a été quand même assez virulent dans les communiqués. On rappelle qu'Acerbi avait célébré sous la Curva Nord, comment dire, de manière où je ne vous entends pas, où, voilà, avec les oreilles. Et c'est vrai que ça n'avait pas beaucoup plu aux Ultras, qui avaient dit c'est fini, on n'en veut plus. Et avant l'Euro, Johan, Acerbi, c'était quand même un défenseur très solide pour la Lazio. Ouais. Et c'est vrai que si même lui n'était plus justement le Acerbi de la saison dernière, forcément pour le reste, c'était plus compliqué. Et c'est vrai que, à côté, même sur le banc, c'est un manque quand même de qualité qui est assez criante. Il y a Romagnoli, mon cher Yohan, qui devrait arriver cet été, libre de tout contrat, pour justement, on va dire, renforcer la défense.
Mais en tout cas, voilà. À chaque fois, tu m'encourages de parler sur Romagnoli. Quoi.
Pas du tout. J'ai juste souligné des faits.
Je ne suis pas dupe, monsieur Maier Pacini.
Je souligne, monsieur Yohan Crochet, factuellement, que Romagnoli devrait arriver à Lazio pour renforcer la défense de Maurizio Sarri. Mais voilà, plus sérieusement, c'est vrai que la défense et le poste de gardien, c'est vraiment une base que tu dois solidifier encore plus quand tu prônes les choses que prône Maurizio Sarri. Donc, c'est vraiment un axe qui sera évidemment prioritaire cet été pour le club romain.
Guillaume, quel est ton joueur de la saison chez les Bianco?
Est-ce qu'il y a beaucoup de suspense?
Ah, je ne sais pas ce que tu vas mettre.
Moi, j'ai quand même mis Ciro Immobile. Je pense que... je pense. C'est mon propre avis, mais c'est vrai que on était resté quand même sur l'euro de Ciro Immobile qui n'avait pas été très bon, Johan. On ne va pas se mentir.
12 euphémismes.
Voilà, 12 euphémismes. Et d'ailleurs, on a vu quand même que les... Évidemment que ce n'est pas tous les problèmes, on ne fera pas le monde, mais on vous conseille de poser des précédents podcasts où on a longuement parlé. Mais c'est vrai que cette saison, encore une fois, c'est quand même un attaquant qui... Pas qui surprend parce qu'on connaît ses qualités et aujourd'hui, c'est toujours une constance de but et de rendement où cette saison, il met quand même 27 buts en Serie A, il met 32 buts en compétition confondue. Et tout à l'heure, tu parlais d'expected goal et moi, je ne suis pas forcément étonné du fait que tu as un joueur comme Immobilier qui rate très peu d'occasions à Calazio parce que... il est habitué déjà, évidemment, au club, à certains mécanismes. Et c'est quand même un attaquant en Serie A, du moins, qui ne rate jamais. Et avoir un attaquant aussi prolifique sur un laps de temps aussi grand, moi, je trouve ça assez, assez dingue. Et c'est compliqué pour moi de ne pas le meilleur joueur de l'année parce que, évidemment, il y en a d'autres qui pourraient l'être. Mais pour moi, c'est vraiment une récompense, Johan, sur la saison, évidemment, parce qu'il est toujours là, on le voit, mais vraiment pour les dernières, parce que cette constance-là me surprend et m'impressionne, parce que malgré tout, malgré ce qu'il a subi entre guillemets à l'euro et les critiques qui n'ont pas dû être simples à absorber, qu'elles soient justes ou non.
Et ça, tu as raison de le souligner, hein, Guillaume. Tu as raison, psychologiquement, avant d'aborder la saison, alors même si tu avais gagné l'euro, il a pris quand même assez cher.
Voilà, et dans la presse italienne notamment. Mais le revoir à ce niveau-là, malgré ça, moi, c'est quelque chose vraiment qui m'a... J'ai pas envie de dire qu'il m'a bluffé parce qu'on connaît Ciro Immobile, mais le voir encore marquer ses 20 buts minimum, et là, il a 27 par saison, je trouve ça vraiment dingue.
Alors moi, j'ai besoin de faire une précision avant d'annoncer mon joueur de la saison.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Évidemment, quand un joueur met 27 buts, on est quasiment obligé de le prendre. Ça, c'est évident. Et tous les buts ont la même valeur sur le principe. Néanmoins, moi, j'ai regardé un petit peu en détail et ça me chagrine un peu de voir... Bon, il a pas joué contre la Juve cette saison, mais 3 buts seulement en 8 matchs contre les gros. Beaucoup de buts contre des équipes inférieures avec des défenses assez larges. Mais malgré tout, même si je dis ça, les 27 buts, il faut les marquer. Néanmoins, j'ai pas pris Ciro Immobile. J'ai pris Sergei Milinkovic-Savic. Pourquoi? Parce qu'il, pour moi, en termes de domination, quand il joue, je pense que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est en Serie A. Ça va au-delà des chiffres. C'est simplement qu'aujourd'hui, quand Milinkovic-Savic est sur un terrain en Serie A, il est dominant par rapport à ses adversaires. Évidemment qu'il y a 11 buts, évidemment qu'il y a 10 passes décisives, ce qui est quand même, ce qui veut dire qu'il est impliqué sur 21 buts cette saison en championnat, ce qui est quand même assez colossal. Qu'il a marqué aussi dans le derby contre la Roma, qu'il a marqué contre l'Inter, qu'il a marqué contre la Juve à la 37e journée, si je me souviens bien, le but dans les arrêts de jeu qui qualifie directement la Lazio pour la phase d'Europa League.
Et un beau but.
Un beau but, exactement. Il a une importance qui est capitale dans l'élaboration du jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on s'appuie beaucoup sur lui dans le jeu aérien, pas simplement pour des déviations de la tête, mais pour beaucoup de relances de Reina ou de Strakosha vont sur sa poitrine pour ensuite contrôler le ballon, le mettre au sol, s'appuyer en retrait sur un Luis Alberto ou un Cataldi ou un Lazzari pour ensuite élaborer le jeu, etc. Je trouve que je trouve que c'est bon moment pour lui de partir parce que il pourra difficilement faire mieux individuellement, il pourra difficilement faire mieux collectivement. Et je pense que partir sur une saison de cette qualité-là, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi.
Et c'est un vrai leader. En plus, c'est un vrai leader de cette équipe-là. Hein. Il est devenu au fur et à mesure des années. Il a grandi aussi avec Lazio. Et s'il est aujourd'hui le joueur qu'il est devenu, c'est aussi grâce à Lazio. Et moi, je suis d'accord sur le fait que c'est le bon moment parce que je pense que lui, d'ailleurs, s'en est rendu compte parce qu'il a fait un peu le tour de la question là-bas. Et je pense justement, tu vois, même que les supporters lui en voudront même pas parce qu'ils comprennent aussi qu'il aspire peut-être à plus et qu'on peut rappeler par le passé qu'il a eu beaucoup d'offres, alors qu'ils ont souvent été refusées justement par l'Otito, mais il aurait pu aller au bras de fer, il aurait pu pester, il aurait pu aller demander des comptes. Il l'a jamais fait, il est toujours resté exemplaire dans son attitude. Et ça lui tenait quand même à cœur de bien finir. Il marque, tu l'as dit, contre la Juve. Il qualifie la Lazio en Ligue Europa. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée pour lui. Et c'est une belle fin d'histoire entre Milinkovic et la Lazio. Mais le fait que tu mettes en tout cas Johan un joueur de l'année n'est pas du tout scandaleux. Au contraire, il a fait une saison exceptionnelle. Et clairement, il était, on va dire, dans le casting. Et je pense même qu'il peut y avoir des bas chez le supporter de la Lazio pour savoir quel est le meilleur joueur de l'année, parce que Milinkovic-Savic, au niveau de la présence, même dans les très gros matchs, c'est quelqu'un qui déroge jamais, qui est toujours là quand il faut, et c'est vraiment quelque chose qui est bluffant, quoi. Et comme ça de tête, tu vois, je crois que c'est même lui qui ouvre le score contre l'Inter, qui égalise contre l'Inter au match aller. Donc il y a vraiment une constance chez lui qui est remarquable.
Mon cher Guillaume, qui est ta recrue de la saison?
Écoute, c'est un joueur que j'appréciais déjà à l'Hellas Vérone. Il a su. Ouais, on a la même?
On a la même recrue.
Et voilà. Et j'ai aimé surtout une chose, et vous l'avez reconnu, c'est évidemment Zakagne. Ce que j'ai aimé cette saison, c'est qu'il a su prendre Johan son mal en patience, parce que ça n'a pas été une saison toujours simple pour lui. Il n'a pas toujours joué. Et quand il a été. Il a été utilisé par Sarri, il a su répondre présent. Et après, c'était compliqué de le bouger parce qu'au niveau justement de la transition, du dribble, de ce qu'il apporte dans la vitesse, dans la lucidité, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de qualités. Et c'est vrai qu'en première partie de saison, ça a été assez, assez complexe pour lui. Mais la deuxième, voilà, j'ai vraiment vu le Zakagne que j'avais pu voir à l'AS Vérone. Et voilà, au niveau recrue de l'année, pour moi, c'était assez évident de le mettre lui.
Je souscris en tout point à ce que tu as dit. Si les votes s'étaient arrêtés en décembre, j'aurais peut-être mis Felipe Anderson. Puisque Zakagne, il jouait très peu à l'époque, comme tu l'as précisé. Mais ensuite, il a quand même pas mal plongé. Sa deuxième partie de saison à Felipe Anderson est vraiment moins bonne.
Très compliqué.
Ouais. Et Zakagne, j'aime aussi le côté, tu sais, numéro 10, faux ailier, en fait. C'est pas vraiment un ailier, c'est pas vraiment un 10. Ça ressemble à une espèce de meneur de côté. Très technique, très bon dans les petits espaces, qui a aussi une belle qualité de frappe, qui est assez intelligent, je trouve, dans dans l'analyse situationnelle de quand il faut déborder, quand il faut pas déborder, quand il faut rentrer intérieur, quand il faut simplement s'appuyer, quand il faut aller dribbler et provoquer. Je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant et je l'ai aussi mis en recrue de la saison. Guillaume, on termine sur le Panettone. Ah non, pas le Panettone. on termine sur la note de cette équipe de la Lazio.
Alors voilà, évidemment, on rappelle que la moyenne est 6. Et moi, justement, j'ai mis 6 parce que la Lazio est dans les clous. Elle a atteint son objectif. Après, je m'attendais à un peu mieux. Et voilà, on va pas revenir au début du podcast, mais que ce soit en Europe, même en Coupe d'Italie et souvent en Serie A, j'ai été un peu déçu. Donc, c'est compliqué pour moi de mettre plus, surtout comparé aux autres notes que j'ai pu mettre, que ce soit pour Naples, la Juve, c'est autre chose, mais même pour l'Inter. Pour être cohérent avec moi-même, j'ai préféré mettre 6, qui me semble assez logique. Ils sont en Ligue Europa, ce qui était l'objectif de début de saison. Donc voilà.
Mais écoute, j'ai la même note. Comme toi, ce qui aurait pu faire pencher un petit peu la balance pour une note un peu plus élevée, c'est soit atteindre la finale d'Italie, de la Coupe d'Italie.
Ouais, comme ils l'ont un bon déjà... parcours.
Ouais, un voilà, parcours. Un bon parcours en Coupe d'Italie ou un bon parcours ou au moins proposer un peu plus de choses en Europa League. Par exemple, tu vois, si au moins ils avaient fait un parcours en phase de groupe de l'Europa League comme ils l'ont fait en Ligue des Champions l'année dernière avec beaucoup de qualité, même s'ils étaient sortis de la même façon en huitième de finale, j'aurais sans doute mis 6,5, tu vois, le petit demi-point qui récompense aussi un petit peu ce qui a été fait en Europe. Là, je trouve que c'est insuffisant dans les deux autres compétitions. En Serie A, comme on l'a dit, finalement, tu réponds aux attentes et aux objectifs, donc c'est pas un vrai dépassement d'objectifs. Et donc, je trouve qu'il n'y a rien pour contrebalancer derrière, tu vois, ou pour essayer de mettre ce demi-point supplémentaire ou même ce point supplémentaire si dans les deux compétitions, ça avait pu être un petit peu mieux, etc. D'ailleurs, quand je dis huitième de finale d'Europa League, c'est 16e, hein, c'est la phase de barrage. C'est pas le huitième de finale puisque ils étaient dans le groupe de Galatasaray et Galatasaray s'était qualifié directement en terminant premier de ce groupe pour les huitièmes de finale qu'ils avaient perdu contre le Barça. La Lazio, c'est un huitième de finale déguisé, mais qui est en fait un 16e de finale où ils avaient perdu donc contre Porto. Voilà Guillaume qui boucle notre review, pour utiliser un mot anglais, de la saison 2021-2022 de la Lazio. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On le dit à chaque fin d'épisode. Guillaume fait des petits débats sur Twitter, sur son compte Twitter, allez voir ça. N'hésitez pas à partager aussi le lien, à laisser les 5 étoiles, etc. On vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se dit à très vite, mon cher Guillaume.
Ouais, évidemment.
Et on fait quoi ? On traverse les rives du Tibre.
Allez, allons de l'autre côté d'Europe.
Exactement. Merci à tous et à très vite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.